Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Cheikh Khaym, chef en islam, nous remercions Allah azza wa jalla qui nous donne la possibilité d'être réunis ce soir de ce jitema', de cette assemblée, une assemblée mubaraka, une assemblée bénie. Et à l'issue de cette assemblée, inshallah, un jeune croyant, un jeune mu'min en la personne de Anis Bana va dire oui à une mu'mina, à une croyante, à mademoiselle Naïma Badat. Et par cette union, inshallah, ils vont se faire la promesse mutuelle de s'aimer, de se respecter, de partager toute leur vie de ce monde ensemble, et avec l'espoir de se retrouver inshallah dans le paradis, ce qui est la concrétisation et l'aboutissement de ce mariage. Anis, on a discuté cet après-midi avec des problèmes de santé, on aurait dû ne pas officier le nikah, mais ce mariage est trop important. Tous les mariages sont importants bien sûr, mais c'est symbolique. Anis fait partie de ces jeunes qu'on fréquente régulièrement, avec qui on a des échanges, des bayans privés, des questions-réponses. Il y a un lien de muhabba qui s'est installé, et parmi ce groupe, il y en a d'autres qui sont dans cette assemblée. La plupart sont célibataires, et lorsqu'un jeune parmi ce groupe se marie, mais c'est vraiment un Eid pour nous tous. C'est vraiment un grand moment de joie. Et même si on a dû prendre double dose de cortisone pour venir, et que la tension maintenant doit être à 15, on tremble un petit peu, mais il fallait répondre présent parce que ça c'est tellement important. Et le muhabba est extrêmement sincère, et qu'Allah Azza wa Jal garde ce muhabba. Anis, dans quelques instants, tu vas prononcer une formule toute simple. C'est quoi la formule? Non. Bien. Il m'avait demandé de l'écrire par WhatsApp, par translittération, je l'ai fait. Et parce qu'il est en train de faire yad, réviser, pour être sûr qu'il se marie ce soir. Et c'est composé de trois mots. C'est une formule d'une grande simplicité. Mais en le prononçant, subhanallah, ta vie va changer. En le prononçant déjà par le lien du nikah, la moitié du iman, la moitié de la foi va être présente, solidifiée, va se construire, inshallah. Et c'est là aussi nous voyons la beauté de l'islam, mais également la simplicité, l'accessibilité de notre religion. Une religion accessible à tout le monde d'une grande facilité. Et en même temps, une religion qui nous permet, lorsqu'on prononce le nom d'Allah, lorsqu'on reste dans les limites des ordres et des interdits d'Allah Azza wa Jal, on peut faire des choses exceptionnelles qui apportent énormément de bonheur, énormément d'épanouissement sur le plan personnel, sur le plan psychologique, mais surtout spirituel. Une relation entre un jeune garçon et une jeune fille en dehors du cadre du mariage, c'est une relation excusez-moi, interdite, qu'on appelle l'adultère, le zina, est tellement grave que la foi quitte le corps de la personne. Mais il suffit de dire nakahtuha wa qabiltuha, en prononçant le nom d'Allah, pour que cette action devienne une sunna. Tu as des récompenses parce que tu mets en application une tradition prophétique. Et ça s'appelle un amalun salih. On voit là la beauté de notre religion, mais on voit également la simplicité. Pour se marier, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de grandiose. On ne te demande pas de réciter par cœur des poèmes, des vers, ou de mémoriser une centaine de versets du Coran qui parlent du mariage et des hadiths. Non, il suffit juste de dire, même si on le dit en français, c'est suffisant que je la prends dans mon mariage, je l'accepte dans mon mariage. C'est là l'accessibilité, la simplicité de l'islam. Lorsqu'un enfant naît au monde, il y a certaines actions à accomplir qui sont très simples. Lors d'un mariage, les actions à accomplir sont très simples. Bon, le sujet n'est pas à l'ordre du jour, mais même quand il y a maillette, les actions à accomplir sont très simples. Tous les rites de ce dunya, de ce monde, sont d'une grande simplicité. Parce que ce monde n'est qu'un lieu de passage. Et les actions pour lesquelles Allah nous demande de faire beaucoup d'efforts, ce sont les actions qui vont le mener vers le akhirah, vers l'au-delà. C'est pour ça que nakahtuha wa qabiltuha, ça se dit, ça prend autant de temps que de dire a'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, avant de commencer surat al-fatiha dans chaque unité de prière. Et le temps qu'on passe dans les prières, dans les sujouds, dans les doigts, c'est beaucoup plus de temps, parce que ça c'est la préparation du monde du akhirah, du monde de l'au-delà. Et ces termes, nakahtuha wa qabiltuha, subhanallah, ce sont des termes qui vous engagent. Des termes très lourds, des termes magnifiques. Et à partir du moment où tu vas les prononcer, tu t'engages au nom d'Allah et en présence de toutes ces personnes qui sont là, que je vais aimer cette personne, je vais la chérir, je vais lui donner le maximum d'amour et je vais lui apporter tout ce que je peux sur le plan iman, sur le plan spirituel. Et nous aurons là deux jeunes, mu'min et mu'mina, qui ont tous eu une éducation religieuse, islamique, de la part de leur famille respective, le garçon du côté de la famille Bana, la fille du côté de la famille Badat, cet acquis spirituel qu'ils ont eu depuis l'enfance, cet enseignement, ce qu'on appelle en arabe, il y a un terme, le inaya, toute l'attention que les parents ont donnée à l'enfant pour l'éduquer, pour qu'il réussisse chaque étape. Ça peut être les étapes sur le plan scolaire, qu'il passe de classe, qu'il ait son brevet, son bac, et ainsi de suite. Ça peut être également les étapes, subhanallah, sur le plan spirituel, que mon enfant commence à lire le Coran, qu'il arrive à lire, qu'il fait son khatm le Coran, qu'il comprenne comment on prie, qu'il arrive à faire ses cinq salats. Tout cet effort accompli par tes parents. Et là, on aurait une pensée pour ta maman, qu'Allah Rabbul Izzah a repris, qu'Allah lui accorde le plus haut degré, fil firdaus il a'la, et que le jour de Qiyamah, vous vous retrouvez tous ensemble, inshallah. Qulu amin. Et donc, subhanallah, tout ce que tes parents ont fait pour te donner cette éducation, et tout ce que tonton Badat et son épouse a fait pour donner l'éducation à mademoiselle Naïma, ben, cette fusion de tarbiya, cette fusion d'acquis, tant sur le plan éducatif que spirituel, ben, ils vont se retrouver ensemble ce soir. Pour donner naissance, inshallah, à un foyer de croyants où il y aura le meilleur des deux familles, où il y aura le meilleur en termes de comportement, en termes d'amour, en termes de akhlaq, et également en termes de iman et de spiritualité. Mon cher Anis, sache que le mariage ouvre énormément de perspectives. Le mariage est l'occasion pour qu'un homme et une femme de leur union se rapprochent d'Allah Azza wa Jal. On lit souvent le verset « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Nous avons, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un modèle de comportement. Et très souvent, on se focalise sur le modèle prophétique dans la façon de s'habiller, dans la façon de manger, sans le moindre doute. Ce sont des sunnahs à mettre en application. On doit également voir le modèle prophétique dans les relations familiales. On doit également voir le modèle prophétique dans les relations au sein du couple. Et ces deux points-là qui nous intéressent en quelques instants, Inch'Allah. Avec le problème de santé, on ne va pas faire un bayan trop long. Du coup, ça arrange tout le monde. Il y a deux points essentiels. Le respect de l'épouse, en général, on en parle. Mais il y a un point extrêmement important. Dans la société occidentale dans laquelle nous vivons, on a l'impression que quand on se marie, ben, on coupe les ponts. C'est comme si que le jeune garçon et la jeune fille, ils vont devenir autonomes, ce qui est vrai. Ils vont voler de leurs propres ailes, ce qui est également vrai. Ils vont avoir une vie loin du foyer familial. C'est une réalité. Mais pour autant, les relations entre le jeune couple et leurs parents respectifs ne doivent jamais changer. Bien au contraire, par le lien du mariage, tu auras l'occasion de faire le khidma de ton père, et ton épouse continuera à faire le khidma de ses parents, et toi tu auras du muhabba pour tes beaux-parents, et ta femme, ton épouse, Naïma, aura du respect et du muhabba pour son beau-père. De cette façon, la muhabba, l'amitié va se multiplier dans la umma. Le respect va se multiplier dans la umma. On citera que quelques hadiths qui nous rappellent l'importance du respect des parents, et on insistera sur le rôle de la maman. Ta maman qui nous a quittés, subhanallah, ça aurait été la fraîcheur de ses yeux de voir son fils se marier, mais c'est comme ça qu'Allah Rabbul Izzah a décidé. Et il y a un khair en chaque chose. Mais sache que, même après son départ, tu peux encore faire énormément de choses en termes de dua, sadaqa jariya et de bonnes actions pour qu'Allah lui accorde les récompenses. Juste quelques ayats et quelques versets. Lorsqu'Allah Azza wa Jal rappelle le principe du tawhid, l'unicité d'Allah, de le culte, wa'budullah, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorer Allah, l'unique, et ne lui donner aucun associé. Ça c'est quoi? Ça c'est kalima. Ça c'est la base de iman. Et juste après le tawhid, qu'est-ce qu'Allah Rabbul Izzah demande aux croyants? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et la bienfaisance, la bienveillance envers les parents. Les savants, les mufassirins disent, immédiatement après l'unicité d'Allah, il y a le fait de bien se comporter avec ses parents. Là, on parle de iman. On analyse un hadith de Abdullah bin Mas'ud, radiallahu anhu, de lequel Il dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jal, quelle est l'action la plus aimée par Allah? Le prophète a dit, as-salatu ala waqtiha, que le croyant accomplisse ses prières à l'heure, le namaz. Là, on a l'action la plus importante de l'islam. Et le sahaba dit, thumma ay, ensuite, quelle action au prophète d'Allah? Et le prophète dit, birrul walidain, le respect des parents, être bienveillant, être bienfaisant envers les parents. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Les savants disent que si on compare ce verset et ce hadith, on réalise l'importance des parents. Et quand on parle de parents et quand on parle d'enfants, il n'y a pas de limite dans le temps. On reste enfant de ses parents quand on a 10 ans, quand on a 15 ans, quand on a 18 ans, même si on dit qu'on est majeur, mais nous restons les enfants de nos parents. Quand on a 25 ans, qu'on se marie, quand on devient papa, on a 30 ans, quand on devient nous-mêmes peut-être grand-père à 50 ans et que les parents, si Inch'Allah, sont encore vivants, ils restent nos parents. Et le respect, la muhabba, le birrul walidain, il est intact. On a eu l'occasion, il y a quelques jours, de faire une petite intervention devant un public composé de personnes âgées et qu'il n'y avait aucun musulman parmi eux. Et on a parlé du respect des parents. Je vous assure que toutes les têtes se sont mises à bouger. Des personnes âgées qui sont déjà peut-être dans des maisons de retraite ou qui savent pertinemment que dans quelques temps, lorsqu'ils ne seront pas autonomes, ou c'est par malheur, enfin par malheur, c'est une expression, et ils sont atteints d'une maladie difficile à gérer, comme Alzheimer ou autre, les enfants n'hésiteront pas une seconde à les placer dans des maisons de retraite. Et quand ils entendent les hadiths qui stipulent que avoir ses parents chez soi un certain âge où on peut être à leur disposition, c'est là un cadeau. C'est là un cadeau de la part d'Allah, parce qu'Allah t'ouvre une porte s'il y a un des deux parents, ou deux portes qui te permettent d'accéder au paradis. Et tant que ces portes seront ouvertes, c'est-à-dire tant qu'ils seront de ce monde, il faut continuer à agir de la meilleure des façons avec les parents. Ça, c'est notre religion. Ça, c'est l'humanisme avec un grand H. C'est ce qu'on appelle en arabe al-insaniya, les valeurs humaines que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Également, il y avait un jeune sahaba qui a dit au prophète d'Allah, il y avait plein de motivations. Je veux sortir de le chemin d'Allah. Je veux venir avec toi. Le prophète sallam m'a vu qu'il était bien jeune. Il a dit, est-ce que tu as un de tes parents qui est encore vivant? Il a dit, oui, ma maman est vivante. Il a dit, ta maman est vivante. Dans ce cas, va auprès de ta maman et reste auprès d'elle. Parce que tu trouveras le Jannah, où ça? Auprès de ses pieds. Hadith rapporté par An-Nasa'i ibn Majah. Hadith magnifique. وَيْحَكْ إِلْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةِ Reste auprès de ses pieds, fais son khidmat, le jannah tu l'auras auprès de ses pieds. Et dans d'autres riwayas, le prophète sallam avait dit à cette personne, tu auras la récompense de ton hajj, tu auras la récompense du umrah, tout ce que tu veux, mais c'est la maman, la priorité, Allah t'accordera tout ça. Ces quelques textes nous permettent de réaliser comment, subhanallah, être proche de ses parents, c'est essentiel. Et le mariage ne doit en aucun cas changer la relation que nous avons avec nos parents, bien au contraire. On doit être encore plus présent, encore plus bienveillant, faire en sorte de bien partager le temps entre la famille, entre la belle famille, faire en sorte que par le biais du mariage et les liens du nikah, on apporte du bonheur aux parents. Parce que quel, subhanallah, on dit ça en arabe, qurratu ayn, la fraîcheur des yeux d'un papa qui voit son fils ou sa fille heureux et heureuse. N'est-ce pas là l'aboutissement d'une tarbiya? Je le dis, c'est une thèse, on est encore jeune, nous on n'a pas d'enfants de cet âge, on ne peut même pas imaginer c'est quoi, mais on se met parfois à votre place. Avoir éduqué un enfant, avoir tout donné pour lui jusqu'à un certain âge, 22, 23, 24 ans, et que l'enfant se marie, et que on constate qu'il est heureux, elle est heureuse. Intérieurement, on se dit, khalas, j'ai accompli mon devoir, oui ou non? Donnez du bonheur à vos parents de cette façon. Montrez à vos parents que vous êtes heureux, que vous avez accompli votre mission. D'autant plus ça, vous avez d'autres filles, non? D'accord. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'un père donne une bonne éducation à ses filles, s'il en a au moins deux, ce qui est le cas, et que, en commentaire, les muhaddithin disent, c'est quoi une bonne éducation? C'est terminer le cycle de l'éducation jusqu'à les faire marier avec des personnes correctes où ils vont connaître une vie dans l'obéissance d'Allah. Le prophète sallam dit, je garantis qu'on sera à côté de le jour de Qiyam. On se rapproche et le prophète sallam a montré ses doigts. Qu'Allah Rabbul Izza vous accorde cette place. Le nikah, ikhwani, akhawati fillah, c'est du bonheur, c'est de l'amour, c'est de la spiritualité, c'est du respect, c'est des relations, c'est également deux familles, c'est pas juste à Nice. C'est pas uniquement Anis, le nom de ton épouse m'échappe, excuse-moi. C'est pas uniquement Anis et Naïma qui vont s'unir. Ce sont là deux familles qui vont s'unir, subhanallah. Et la muhabba va s'installer au sein de la Ummah. Hada. Dernière histoire, dernière anecdote. Hadith de Aisha radiallahu anha. Elle dit que le prophète alayhi salat wa salam a dit, j'ai entendu de le Jannah, le paradis. Là, on y va direct. J'ai entendu de le paradis les pas d'un compagnon qui s'appelle Haritha ibn Nu'man. Et le prophète m'a dit, prenez exemple sur ce jeune homme. Kadhalikum albir, wa kana abarrun nasi bi ummi. Ce jeune homme était connu parmi les sahaba pour être extrêmement proche de sa maman. Il faisait en permanence le khidma de sa maman, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce jeune sahaba de le Jannah. Donc nous avons là un premier message. À partir du moment où tu vas dire nakahtuha wa qabiltuha, fais également l'intention d'être reconnaissant vers Allah en étant reconnaissant vers tes parents et pareil pour ton épouse. Inch'Allah. Tu as dit Inch'Allah? Donc, pour si on continue, on s'arrête. Il a dit Inch'Allah. C'est bon. Tu tombes ça, on continue? Impeccable. On est tous d'accord. Deuxièmement, et ce sera la deuxième et la dernière thématique, en termes de relation, il y a une nouvelle relation qui va naître. Bien sûr, c'est la relation entre l'homme et la femme. Et ça, c'est extrêmement important. Une relation basée sur le respect, sur l'amour. Et quand on parle de respect, c'est respecter la femme dans son intégralité, dans sa personne, dans son éducation. Ne jamais frustrer une épouse et que l'épouse également respecte son mari par rapport à tous ses acquis. Et arriver à faire une synthèse, comme on le répète très souvent, une synthèse de tout ce que vous avez de bon, tout ce que vous avez appris de bon avec votre famille, vos parents respectifs, afin de le transmettre à votre futur foyer, Inch'Allah, quand Allah Azza wa Jal vous accordera des enfants, ben Inch'Allah, ils auront cette éducation qui est issue, qui est le fruit de, subhanallah, un siècle et demi de présence des deux familles, plus ou moins à La Réunion, et des valeurs qui sont transmises d'arrière-grand-père à grand-père, à papa, et qui sont transmises à une quatrième génération, et qui sont également transmises à une autre génération, et c'est ça l'islam. Transmission de valeurs, transmission du comportement, transmission de akhlaq. L'islam, c'est se prosterner 5 fois par jour. Oui. L'islam, c'est aller au hajj. Oui. L'islam, c'est lire le Coran, le mémoriser, certainement. L'islam, c'est suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Mais l'islam, c'est également aimer son prochain comme le prophète aimait chaque créature d'Allah azza wa jal. Et dans sa relation avec Khadija radiallahu anha de son vivant, et après son décès avec Aïcha radiallahu anha, on a le modèle parfait. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'avait rappelé lors du mariage d'un de vos proches, docteur Yaïch, il y a 2 semaines ou 3 semaines, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpellait son épouse, c'était jamais par son prénom. C'était toujours par un nom affectueux. Sinon gâté, comme il dit. Le prophète m'appelait Aïcha, Ya Aïch, Ya Habibi, Ya Humeir. Ça c'est important. Et ça, ce n'est pas uniquement pour les jeunes couples, même les anciens. Trouver une façon d'interpeller la femme pour qu'elle sente et qu'elle reconnaisse qu'il y a de l'amour dans la façon que le mari s'adresse à elle. Le prophète sallam avait toujours des propos agréables. Le prophète n'a jamais levé le ton avec une de ses femmes. Jamais de la vie. Le prophète n'a jamais insulté une femme. Le prophète sallam dit inna akmal al-mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Le croyant qui a le iman le plus complet, c'est celui qui a le meilleur des comportements. Et le prophète dit wa khiyarukum linisa'ikum. Et les meilleurs parmi vous, c'est ce mari qui a le meilleur akhlaq, le meilleur comportement avec son épouse. Tu fais l'intention de prendre le prophète comme exemple, inshallah, inshallah. Chose importante, et ça c'est plus en relation avec les jeunes. Parfois les anciens aussi, qui sont un peu fun. Attention aux aspirateurs de temps. Attention à tout ce qui nous déconnecte de la vie amoureuse, de la vie affective, de la vie familiale. Et là, je parle du monde virtuel, les réseaux sociaux, ces portables qui prennent tout notre temps. Facebook, les Twitter, ainsi de suite. Il faut se fixer une règle. On peut être sur les réseaux sociaux, là-dessus, il n'y a pas de problème. Dans notre travail, des embouteillages, en conduisant, si on a beaucoup de points, il n'y a pas de souci. Mais arrivé à la maison, on se déconnecte de tout et on se connecte avec femme et enfant. Ça, c'est essentiel. Et là, je parle peut-être pour moi aussi. Hein, c'est un nasiha que tout le monde a besoin. Quand on entre à la maison, l'épouse attend son mari. Les enfants qui ont été à l'école le matin, même les ados, il faut pas croire, hein, ils sont collégiens, lycéens, ils attendent le retour du papa. Même s'ils font comme si que ça ne les intéresse pas trop. Ils ont besoin de la présence humaine du papa, il est extrêmement important de donner du temps. Je me rappelle, il y a 5 ans, mon Abbas avait fait un programme sur le mariage durant le mois de Ramadan. Il avait cité le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui avait raconté une longue histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire était interminable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a écouté du début jusqu'à la fin. Il ne l'a jamais interrompu. Il n'a jamais dit une seule fois, ça fait très longtemps que tu racontes l'histoire, on a d'autres choses à faire. Ça fait partie du respect. Donner du temps, s'il y a bien une personne qui mérite de notre temps, c'est notre épouse. On fait le nia, inshallah, de donner le maximum d'amour, mais cet amour, ça ne doit pas être un amour platonique quand il y a la Saint-Valentin ou il y a une fête. Non, cet amour, c'est au quotidien, c'est tous les jours, et cet amour doit augmenter, croître, yaoum ba'da yaoum, jour après jour, et se manifester par des gestes simples du quotidien. Quand je dis des gestes simples, c'est pas forcément acheter des cadeaux du tout. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on l'avait rappelé il y a 2 semaines, lorsqu'il passait à table, il s'efforçait de boire de le même verre que sa femme. Ça, c'est un signe de muhabba. Lorsqu'il mangeait, il mettait parfois une bouchée dans la bouche de Aïcha radiallahu anha. Témoignage de muhabba et d'affection. Qui le fait à notre époque? Chacun est avec son pizza, son sandwich, son coin, on discute, on philosophe. Ça, c'est les signes de muhabba. Ça dépasse les comptes. Ça, c'est vraiment l'amour sincère. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on l'avait rappelé il y a quelques temps, à chaque fois qu'il quittait sa maison pour aller à la mosquée, qu'est-ce qu'il faisait, Anis? On en avait discuté dans les programmes. Qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois qu'il quittait son domicile pour aller à la masjid? Il embrassait sa femme. Combien parmi nous le font? Parmi les anciens également. Ce sont là des manifestations d'amour au quotidien. Si on va à la mosquée 5 fois par jour, mais 5 fois on embrasse madame avant de partir. Ça, c'est de la muhabba au quotidien. Ce sont des gestes simples. Le meilleur des hommes, celui qui était à la tête de plus de 100 000 sahaba lors du pèlerinage d'adieu et qu'il a parlé à l'ensemble des croyants qui ont rapporté le message de le monde entier, cet homme de cette notoriété, il nous apprend également que embrasse ton épouse avant de quitter la maison. Ça, c'est le modèle prophétique. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Et dernier point concernant le respect de la femme et de la même façon le respect de la femme par rapport au mari. Et là, on parle pour les couples un peu plus anciens, pas pour les jeunes, parce que pour les jeunes, c'est plus ou moins acquis. Ça dure quelque temps. Il est extrêmement important que le mari soit attentif à sa tenue vestimentaire, à son apparence physique à la maison. Tout comme l'homme, il est normal, on souhaite que son épouse soit bien habillée, parfumée, et que quand on voit sa femme, alhamdoulilah, on est satisfait. Mais c'est vice-versa. Ce serait complètement injuste que la femme, elle se prépare, et le mari arrive à la maison, ben, il enlève son beau costume, son machin, et il va mettre le vieux longhi qu'il a gagné avec son papa, et que le vieux t-shirt, ce n'est pas du respect. Et il y a une citation d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui est très importante. Tu as un vieux longhi que ton père t'a... Non, dans ce cas, tu l'emmènes pas de ton trousseau. D'accord? Redonne papa. Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, dit un hadith, et une parole magnifique. Inni, et on va conclure là-dessus. Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li li'anna Allah ta'ala yaqul wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Il dit, j'aime me parer, c'est-à-dire me faire beau pour mon épouse, tout comme j'apprécie que ma femme se fait belle pour moi, car Allah dit dans le Coran, et il déduit ça par rapport au verset, Ibn Abbas était le plus grand commentateur du Coran de l'histoire de l'humanité, il dit dans le verset, quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. La bienséance, c'est justement faire des efforts des deux côtés. Anis, qu'Allah Azza wa Jal vous accorde beaucoup de baraka, beaucoup de bonheur dans cette union, et que par ce nikah, Allah vous accorde des enfants qui seront la fraîcheur de vos yeux et qui seront, mashallah, des jeunes croyants, mu'mines et mu'minas, 5e génération à peu près, ou 6e génération des musulmans de la Réunion, et qui porteront les valeurs du din et qui porteront également les mêmes akhlaq, la même ouverture d'esprit, le même humanisme que nos grands-parents avaient lorsqu'ils se sont installés et qu'ils ont trouvé leur place et qu'ils ont eu un comportement qui forgeait le respect. Ben, nous sommes héritiers de ces valeurs. Nous sommes héritiers d'une religion, mais nous sommes également les héritiers du comportement qui découle de cette religion. Qu'Allah vous accorde des jours, des moments, des années, une vie de bonheur, et que jour après jour, vous allez apprécier ce nikah, incha'Allah, jusqu'à ce que Je ne veux pas dire le moment où on m'a dit de ne pas dire, jusqu'à ce qu'un jour vous soyez ensemble dans le Jannah. Et je conclue avec le verset qu'on cite à chaque nikah. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salah min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Ce verset, c'est un verset magnifique qui décrit l'homme, en ce sens, qui retrouve son épouse, qui retrouve ses parents, c'est-à-dire les ascendants, et qui retrouve ses enfants, c'est-à-dire ses descendants de le Jannah. Mais à une condition, « وَمَنْ صَلَحَ » Ceux qui avaient la foi et qui ont respecté les ordres d'Allah, ben, ils vont se retrouver ensemble de le Jannah. Et c'est le doua que nous faisons pour toi et ton épouse, et pour les deux familles, et pour l'ensemble des personnes qui sont présentes. On a une pensée également pour les autres jeunes célibataires. Je sais pas, on peut citer leur nom. Il y a Anas Lokat, il y a Zubair Raja, Ouais Raja, il y en a tous ces jeunes, il y a la moitié du groupe. Hein, je dis ce que j'ai vu, il y en a d'autres encore, subhanallah. Ils ont l'âge de se marier. Ils ont le potentiel, les conditions sont réunies. Il suffit d'un petit déclic. Peut-être parfois c'est les parents qui doivent pousser. Hein. On est à une époque où il n'y a plus de marieuses, c'est une parenthèse, le programme est terminé. Il suffit une époque où il y avait des vieilles kalas, moi j'appelle ça des kalas snipers, qui voyaient un jeune homme, une jeune fille et qui faisaient le lien. Maintenant, il n'y a plus trop des personnes comme ça, donc il faut qu'on arrive à trouver une solution au sein de la communauté pour faciliter l'accès au mariage à nos jeunes. Et ça, c'est extrêmement important. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accepte, nous donne à tous tawfiq de comprendre ces leçons du comportement prophétique et qu'on l'applique dans notre vie de couple, pour les anciens couples et surtout pour toi. Et qu'Allah vous ouvre les portes du bonhomme en tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.